L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Une seule année sépare François et Louis. Si le premier est sérieux et rêve d'aventures dans des pays lointains, le second cumule les bêtises et les remontrances. Accusé à tort de vol, Louis est envoyé dans une institution d'éducation surveillée, pendant que son aîné est appelé sous les drapeaux pour combattre en Algérie. Lorsqu'il découvre l'injustice dont son frère a été victime, François renonce à ses rêves et par amour fraternel lui offre sa place pour l'Australie où il avait prévu d'aller faire sa vie. Au prix de grands tourments pour chacun, Louis va alors devenir François. Je viens de vous lire la quatrième de couverture de « Les gens des brumes », un livre paru aux éditions De Boré en juillet dans la collection « Terre d'écriture ». Son autrice est avec nous aujourd'hui dans Aéropage sur Radio FM+. Bonjour Martine Pilate.
Bonjour et merci de votre accueil.
Martine, on va parler d'abord un petit peu de vous. Vous êtes née à Marrakech dans les années 50.
Oui, tout à fait.
Vous êtes arrivée en France après enfant, jeune fille, adulte ?
Oh non, je suis arrivée en France, j'étais encore enfant. Je suis arrivée pour la rentrée scolaire, la toute première rentrée scolaire à l'époque, c'était 6 ans.
Cette arrivée en France, venant des autres rives de la Méditerranée, c'était difficile ou...
C'était un petit peu difficile. Le climat était déjà très différent parce qu'entre Marrakech et le Tarn-et-Garonne où nous sommes arrivés, c'était quand même très différent comme mode de vie. Et même les gens étaient différents. On n'avait plus ce sentiment de liberté qu'on avait au Maroc.
Quand vous arrivez de Marrakech, vous êtes toute jeune lectrice, à 7 ans on est toute jeune lectrice, oui. Mais partout dans vos bios on dit que vous avez été amatrice de littérature très jeune. Vous vous rappelez de vos premiers souvenirs de lecture ?
Oui, tout à fait. C'était la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, parce que j'étais un peu plus garçon manqué également. Mais j'ai toujours vécu entourée de livres, mes parents lisaient beaucoup, nous avions des bibliothèques un peu partout. Et c'est vrai que le livre faisait partie de notre vie.
À l'école aussi, en rédaction par exemple, tout ça, oui. C'était quelque chose que vous aimiez faire ?
Oui, j'ai beaucoup aimé les rédactions. Après, ça a été les compositions françaises, les dissertations. Et j'ai même composé une petite pièce de théâtre alors que j'étais en quatrième pour présenter en fin d'année, en spectacle de fin d'année.
Et puis après cette enfance, vous commencez des études littéraires. Vous vous tournez vers le droit et l'économie après. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie des études littéraires pour arriver vers le droit ?
Les
hasards de la vie ?
Non, pas exactement. Disons que j'avais vraiment envie d'enseigner la littérature. Mais je me suis rendu compte au bout de 2 ans que je n'étais pas faite pour ça. Il faut quand même avoir un caractère très trempé. Des épaules solides pour enseigner, surtout quand on enseigne à des adolescents. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ou je risque une dépression nerveuse à force d'y croire, ou alors je m'en désintéresse, donc je vais me tourner faire autre chose. Or le droit, malgré tout, rejoint la littérature dans le sens où il faut beaucoup de précision, où il faut trouver le mot juste, la ponctuation juste, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des parallèles entre les deux, et je me suis pris de passion pour le droit.
Pour en revenir à la littérature, il y a un texte de jeune adulte dont vous vous souvenez, vraiment un texte, je ne sais pas, comme... Bon, ça a été L'Étranger, mais moi c'était plutôt la littérature américaine, c'était Carson McCullers, je me rappelle de ce livre, m'a complètement chamboulé. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a chamboulé comme ça ?
Oui. Les Diaboliques de Jules Barbet de Révilly. Ouais.
Et c'est difficile, par exemple, d'expliquer Barbet de Révilly à des jeunes adultes ou à des ados, c'est difficile.
C'est difficile parce que déjà, les phrases sont très longues, mais très riches. Ceci dit, comme je faisais du latin, c'était un petit peu la construction de la phrase, ces phrases longues à la Cicéron. Donc j'ai aimé, puis c'était vraiment des situations incroyables, et puis des descriptions de personnages, des descriptions de lieux. On plongeait directement dans l'histoire grâce à dès les premières lignes.
Alors vous, vous auriez aimé être prof si c'était plus facile. En ce moment, avec tout ce dont on parle sur l'univers scolaire, déjà, donc il y a un certain nombre d'années, ça vous a paru dur. Alors aujourd'hui, pour une passionnée de lettres, d'histoire, de tout ce que vous aimez...
Moi, j'admire les professeurs à l'heure actuelle, je les admire. Ouais, n'importe quel niveau, que ce soit les enseignants des petites classes, les professeurs des écoles, comme on les appelle maintenant, mais tous les professeurs de toutes les classes. C'est je trouve qu'il faut vraiment avoir une personnalité et il y a trop de brimades de tous les côtés.
Oui, puis bon, les taxes aussi de plein de choses. Allez, foutons-leur la pelle, elles doivent se refaire leur métier. Oui. Et puis alors, on parle métier, alors justement, alors un peu d'enseignement, hôtesse de l'air, ça va un peu de tous les côtés. Interprète, oui. Juriste, et puis 20 années passées au sein de l'entreprise de travaux Beck.
Oui.
Entreprise sur laquelle vous avez d'ailleurs écrit un livre, l'œuvre des frères Beck.
Absolument, parce que j'ai occupé plusieurs postes. Bon, j'étais assistante de direction, mais j'étais également responsable de la com au début. De logistique, donc j'avais déjà pas mal de documents à mon actif, enfin à ma possession. Et puis, quand j'ai quitté l'entreprise, j'étais en bon terme avec la famille Beck. Et ce sont eux qui sont venus me trouver, qui m'ont dit « Écoutez Martine, est-ce que vous voulez pas qu'on écrive un livre ensemble ?» Et donc, on l'a fait avec deux des enfants des fondateurs. Et ça a été une belle expérience.
Alors là, c'est le début de l'écriture. Enfin, on peut le dire aux auditeurs. Nous, on se connaît depuis une quinzaine d'années, Martine.
Oui.
On s'est connus grâce à Françoise Hirt, où je travaillais à l'époque. Et je me rappelle d'heures et d'heures à discuter devant le magasin, avec votre époux d'ailleurs, qui était avec nous. Et à l'époque, il y avait la passion. Voilà. Et puis, on en reparlera, mais il y avait un livre sur la pétanque, mais vous n'aviez pas encore ces 15 ans d'écriture que vous venez de vivre. Et à l'époque, bon, il y avait Les Cinq Matous, mais qui est un essai, un roman. On peut le mettre dans quelle catégorie là ?
Oui, je ne sais pas dans quelle catégorie, je dirais que c'est plutôt un livre d'anecdotes. Ceci dit, c'est un livre qui a connu un très très beau succès et qui continue à connaître le même succès, mais c'est un livre, comment on appelle ça, cloche-merle, vous voyez, cloche-merle. C'est un cloche-merle, mais beaucoup moins grinçant et au travers du regard des chats.
Et le livre sur les frères Beck ou le livre sur la pétanque, là, c'est des livres plus techniques
Alors, évidemment, les frères Beck, oui, ça correspondait beaucoup plus à mes études économiques, d'économie, parce que j'ai vraiment aimé beaucoup l'économie et j'ai eu d'excellentes notes au cours de mes années universitaires, puisque j'ai fait une grande école. Et la pétanque, pour moi, c'était un devoir de mémoire, puisque mon grand-père est l'inventeur de la pétanque, et que je me devais de raconter cette histoire, au moins la conserver pour nos fils. C'est ce que j'ai fait. Mon mari avait fait beaucoup de photos. J'ai pu travailler avec un journaliste, un photographe hollandais, qui a consacré sa vie à la pétanque. Et c'est une belle expérience d'amitié.
Il est toujours disponible ?
Alors, malheureusement, non, il n'est plus disponible, parce que l'éditeur qu'il a produit a arrêté, il est décédé. Personne n'a repris sa maison d'édition. Moi, j'en dispose de quelques exemplaires que j'ai rachetés, évidemment, parce que si je veux pouvoir en offrir à la famille autour de moi, mais j'en ai pas des masses.
Et ça vous ferait plaisir de le rééditer, par exemple, de trouver un éditeur qui joue le jeu et qui le réédite ?
Oui, ça me ferait plaisir, mais ça y est, je l'ai fait. Je suis passée à autre chose. Je suis passée au roman maintenant, et des romans dans lesquels j'essaye de faire découvrir ou de rappeler des choses que les livres d'histoire ne mentionnent pas ou ne mentionnent plus.
On s'est rencontrés juste au sortir de votre vie professionnelle, en définitive, il y a une quinzaine d'années.
Ah, il y a plus que ça.
Vous avez arrêté de travailler
Il y a 21 ans de ça.
Ah.
Et ça passe vite, ça passe
oui,
vite.
Ça passe vite. Bon, enfin, c'était encore, voilà, ce que je trouve, c'est que vous aviez encore l'air de l'extérieur d'une jeune écrivaine.
Oui, parce que je n'avais toujours écrit que des articles professionnels. Ça, j'avais écrit pas mal d'articles professionnels. J'avais écrit un premier roman à 15 ans, mais bon, à 15 ans, en venant de la province, on ne donnait pas ça à publier à des auteurs parisiens, à part s'appeler Sagan et d'avoir des relations, mais autrement non. Et puis mes parents, eux, trouvaient que ce n'était pas sérieux que de faire publier un roman.
Vous auriez pu trouver le temps, quand vous travaillez, d'écrire un roman, par exemple ? Ça prend du temps.
Alors, non, parce que quand je travaillais et qu'on était en région parisienne, il y avait déjà tous les transports. Ensuite, quand nous étions chez Beck, nous avons eu un enfant tardivement, et avoir un petit à la maison, plus un travail de cadre dans l'entreprise, non, je n'avais pas le temps. J'aurais voulu le faire, et c'est ce que j'ai toujours voulu faire, Bon, ben, quand l'entreprise a connu des difficultés et que je me suis retrouvée licenciée, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais.
Ben, en tout cas, vous avez bien rattrapé depuis, hein, c'est super. Donc, vous avez vécu dans la région de Montpellier au moment où on s'est connus, et puis maintenant, vous vivez en Provence.
Oui.
Hein, côté de Saint-Maximin à la Sainte-Baume.
À Saint-Maximin à la Sainte-Baume, qui est le troisième tombeau de la chrétienté, qui a également un beau passé, un beau patrimoine architectural. Et nous avons la chance de vivre tout en haut d'une colline. On domine la ville et on voit jusqu'au massif des Écrins qui sont enneigés en ce moment.
Donc, pas de regret d'avoir quitté Montpellier ?
Non.
Ah, vous m'aviez confié, quand on s'était vu à Lussan, que vous y retourniez au début pour votre coiffeuse.
Exactement.
Ah, vous voyez, je vous souviens.
Voilà, fidélité.
On va parler un petit peu de vos romans. Donc, le premier de vos romans, vous le dédiez au chat. La passion des cinq matous, donc c'est édité chez Souni en 2009, Françoisir en 2010. Et on le rappelle, hein, vous l'avez abordé, mais alors que ça a été un succès de fou. Donc Françoisir, je crois que les chiffres ne sont pas très bons, hein, parce que moi, pour moi, vous en aviez vendu plus que 40 000. Mais c'était maintenant, vous avez dépassé les 100 000.
Oui, on en est à 140 000 exemplaires. Et l'éditeur, donc, qui est le même que celui de La Pétanque, ne le ressortant plus puisqu'il a terminé ses activités. Il a été repris par un autre éditeur national et il continue sa route. Il continue sa route. Quand je vais sur un salon du livre, en général, même si j'en ai un stock, la première journée, il est épuisé.
Quel souvenir cette journée, vous en aviez dédicacé plus de 50 à les gens. En plus, c'est une chose aussi qui se voit dans les salons. Vous aimez rencontrer votre public, Martine Pilate ?
Tout à fait. Je trouve que c'est quelque chose de très très précieux que de pouvoir échanger un regard, un sourire. Et bien sûr, les livres sont dans les rayons de librairie, mais c'est pas du tout pareil. Ce n'est pas le même contact. Et en général, je donne ma carte de visite et je dis aux gens, si vous voulez qu'on garde le contact, il n'y a pas de problème. Et j'ai un courrier absolument phénoménal. Au dos, il y a effectivement le titre de mes récents, de mes plus récents romans, une douzaine à peu près. Et donc, je consacre en général tout le mois de décembre à ma correspondance avec mes lecteurs, mes lectrices. Et il y en a certains avec lesquels on est resté très très amis et que nous revoyons bien en dehors de tous les salons, puisque j'ai la chance d'être sur tous les grands salons nationaux. Donc, il y a des correspondances qui arrivent de France, de partout en France, et c'est vraiment une belle richesse.
Et c'est vrai que vous êtes fidèle, parce que depuis 15 ans qu'on ne s'est pas vu longuement, on s'écrit quand même toutes les deux à chaque fête de fin d'année.
Oui, c'est
on
vrai.
Se fait un petit mot, on est là l'une pour l'autre.
On voilà. existe, on sait qu'on existe, et on sait qu'il y a un regard amical,
et c'est important.
Une pensée amicale.
Alors quand j'ai préparé l'émission, je voulais parler des 15, 16, 17 ouvrages et vous me dites, non Nathalie, 22 maintenant. C'est ce long chemin en écriture a commencé par Papier Bonbon qui est en grande partie autobiographique, Lulu et les siens, La véritable histoire de la pétanque dont on a parlé et puis Le fils volé qui est basé sur l'histoire réelle qui vous a permis de correspondre avec le fils de Pierre Mendès France,
Michel
Mendès. Et puis Les cigales en héritage, qui est un roman de terroir provençal. Et puis Les rumeurs dans la cour d'école, qui lui est historique et qui parle d'un sujet longtemps tabou, qui sont les Lebensborn. Et puis aux éditions de l'indifférence, et vous le mettez bien ça dans votre bio, c'est une édition qui a des références très littéraires.
Très littéraire. Ça a été la maison d'édition qui a fait débarrer Houellebecq, entre autres choses. Et la maison d'édition où Régine Desforges publiait, je crois qu'elle y avait même une participation. Enfin, j'en sais rien, je ne pourrais pas l'assurer, ça.
Et donc là, vous éditez La page arrachée, qui aborde l'illettrisme et l'intégration.
Oui.
Et puis Trois femmes dans la tourmente, dont l'action se déroule en Italie à travers trois générations de femmes. Depuis 2017, c'est chez Debord, donc presque plus d'un livre par an. Pourquoi j'ai voulu citer tout ça ? Parce que je voulais aussi montrer aux auditeurs la large palette. Souvent, on est dans un genre littéraire et pas un autre. Là, il y a de l'histoire, du témoignage, de l'essai, du roman, de l'humour, parce que les matous, c'est très drôle. Mmh. Voilà. Mais en même temps, des sujets beaucoup plus profonds, comme l'illettrisme, comme l'intégration. Ne pas être comme ça, catalogué dans un genre littéraire, c'est un problème ou c'est une richesse pour vous, Martine Pilate ?
Alors, pour moi, c'est une richesse en ce qui me concerne personnellement et je pense en ce qui concerne mes lecteurs, parce que je ne leur resserre pas systématiquement la même chose. Par contre, c'est un handicap au point de vue maison d'édition. Alors bon, j'ai la chance d'avoir deux maisons d'édition à l'heure actuelle, mais Bon, on va voir, on continue.
Là, en ce moment, vous me disiez, quand on prépare l'émission, que vous partiez plus vers l'histoire. C'est une passion de toujours l'histoire aussi.
Oui, le côté historique, oui, ça me passionne. Mais ce qui me passionne surtout, ce sont des faits méconnus de l'histoire. Là, vous aviez parlé des Lebensborn. Après, je vais aborder les Harlem Hellfighters, les Pianos de la Victoire, la dernière bataille. Bon, ça, c'est autre chose qui sera sur pour le prochain roman. Mais c'est vrai que ces faits historiques méconnus, ils sont précieux. Il faut quand même les garder en mémoire.
Et ça vous permet de travailler en toute complicité avec celui qui a la dédicace Les gens des brumes et dédicacé à Robert pour son appui constant tout au long de nos chemins d'aventure, de passion et d'espoir. C'est vrai que c'est quelque chose qui était très fort déjà il y a 15 ans. Et de travailler comme ça aussi en complicité. L'un recherche, l'autre écrit, c'est un peu complémentaire ?
C'est tout à fait complémentaire. C'est vrai que Robert ne connaît pas ce que j'écris. Il sait que j'aborde un certain thème, mais ça ne va pas chercher très loin. Par contre, il me fait des recherches. Et alors, c'est peut-être pas très drôle pour lui, parce que je lui donne des dates en lui disant, voilà, tel pays, tel endroit, je voudrais que tu me trouves des informations là-dessus. Et c'est peut-être pas la partie la plus facile du tout.
À mon avis, ça l'intéresse quand même un petit peu.
Oui. Hein,
voilà.
Oui.
On ne va pas en faire une victime non plus.
Non.
Martine, on va marquer notre première pause musicale. Et vous avez choisi pour nous la Symphonie du Nouveau Monde, le deuxième mouvement, qui est plus nostalgique. Mais bon, comme on n'a pas réussi à faire la coupe, on commence par l'entrée. Voilà. On n'a pas fait de la nostalgie. On a fait dans le triomphant et l'entrée magnifique de cette Symphonie du Nouveau Monde.
Ce n'est pas grave, de toute façon ça nous fait voyager à l'extérieur, à l'étranger, puisque la Symphonie du Nouveau Monde c'était pour New York, ben tant pis, là on part en Australie et en Tasmanie.
Ben, elle est magnifique, et on part tout de suite après, en Tasmanie. Et vous êtes toujours sur Radio FM Plus dans Aéropage. Aéropage en compagnie de Martine Pilate qui vient de nous parler de Les gens des brumes. Martine, on va tourner les pages du livre maintenant ensemble hein, et on va en faire le pitch. Voilà, pour rappeler ce dont on a parlé en début d'émission. Donc, le pitch, c'est François et Louis, deux frères nés à moins d'un an d'écart, se ressemblent physiquement mais leurs caractères, eux, sont très différents. L'aîné sérieux rêve d'aventures de pays lointains et le cadet cumule les bêtises et les blâmes. Injustement accusé de vol, Louis se retrouve dans une institution d'éducation surveillée pendant que son aîné est appelé sous les drapeaux pour combattre en Algérie. Et puis, à un moment, par le hasard d'une rencontre, François va découvrir donc l'aîné que son petit frère a été victime d'injustice. D'ailleurs, même si ils ne sont pas... Ils n'ont jamais été ennemis. Non. Ces deux frères. Ils ont un caractère différent, mais ils s'aiment.
Ils s'aiment, sauf que les différends qui vont surgir entre eux viennent plutôt des parents, du père qui est très strict et de la mère qui est vraiment très très proche de son dernier fils, du plus jeune. L'aîné s'en ressent un peu, d'autant plus que le père lui impose d'être responsable de son petit frère. Et c'est là où il y a quand même des chamailleries. Mais ça ne va quand même pas trop trop loin. Il y a quand même un amour profond entre eux, un amour fraternel.
Et quand Louis va être accusé de vol, eh ben François va l'aider. Enfin, pas dans un premier temps, mais quand il va comprendre l'injustice, il va lui dire bah, « Écoute, je comptais partir en Australie, au retour de la guerre d'Algérie. Et eh ben, tu vas partir à ma place pour sauver ta peau, parce que sinon, tu risques d'être accusé. » D'ailleurs, il ne sera jamais accusé.
Non, il ne sera jamais accusé, mais ça, il l'ignore.
Il ne le sait pas.
Voilà, il risque d'avoir des poursuites judiciaires pour un crime ou un semblant de crime, en fait, qu'il n'a pas du tout commis. Et il en a très, très peur. Et donc, c'est là où son frère lui dit, bah, écoute, moi, je renonce à l'Australie. Pars à ma place, tu prends mon identité. Après tout, en France, moi, je reste François. Et toi, en Australie, tu deviendras François.
Et le roman, il est construit en trois parties. Et la première est passionnante. Enfin, les trois sont passionnantes, mais très diverses. La première, donc, se passe dans le Tarn. Et vous racontez justement la construction de cette famille, le père, la mère, qui arrive d'Espagne.
Oui, c'était des ouvriers espagnols qui vivaient dans la misère, au fond d'un petit village d'Estrémadour.
Orphelin, puisqu'il s'appelle Martès, parce
voilà,
qu'on les trouve un mardi.
Voilà, lui est orphelin, puisqu'on l'a trouvé un mardi, donc on l'a appelé Martès. Et ils viennent, comme beaucoup d'Espagnols, franchir la frontière et travailler dans le sud, sud-ouest de la France, sud-est aussi.
Juste dans l'avant-guerre.
Juste avant-guerre, voilà.
Et c'est quelque chose que vous aimez aussi, Martine, aborder, donc parce qu'on va suivre cette famille d'avant-guerre à la jeunesse des garçons, dans le juste après-guerre, et ben, du problème de raciste. De racisme. Parce que bon, c'est encore les Espingouins. Hein,
c'est les Espingouins.
Moi, je me rappelle, hein, à l'école, il y avait une fille qui s'appelait Amparo Aguado, je me rappelle de son nom. Donc, je vous dis ça, il y a 55 ans quand même. Hein. Et on l'appelait, c'était l'Espingouin.
Les Espingouins.
Et dans le sud de la France, donc, c'était encore très, très fort, cette culture-là. C'est le fait qu'ils se battent, que même 30 ou 40 ans après leur arrivée, c'est encore épidermique chez certains habitants là-bas, notamment le fils du boulanger, de mémoire.
Oui, c'est ça. Oui, mais lui, il avait le vice dans le chevalier au corps.
Et puis, il n'était pas... voilà, un peu bas de plafond.
Voilà.
Et toute la construction de cette famille, donc arrivée ouvrier agricole, l'achat de la première maison...
Ça avait une grande importance pour eux. Ils étaient propriétaires, enfin être propriétaires, même si ça n'avait été qu'un petit masé, mais ils avaient leur chez-eux.
Tout ça, c'est quelque chose que vous puisez dans votre observation, dans votre histoire personnelle ?
L'histoire personnelle, non. Moi, j'ai la chance de venir d'un milieu favorisé, mais par contre, de l'imagination et de l'observation surtout. Vous savez, pour écrire, il faut d'abord savoir écouter. Parce que chacun porte en soi une histoire. Si elle n'est pas suffisante, on ajoute une autre histoire. Après, vous remettez ça dans un contexte historique, géographique, climatique, enfin, ce que vous voulez. Et vous arrivez à faire quelque chose qui puisse être joli ou du moins intéressant.
D'ailleurs, il est intemporel, le roman. Parce que je suis rentrée tard, j'ai lu en une journée, Martine. Hein. Et je lis vite aussi. Enfin, une grande journée, comme je suis malade, comme ça s'entend, j'ai passé une journée au lit et j'ai lu en une journée. Et je suis rentrée dedans, et puis à un moment, tiens, j'ai dit, mais en définitive, c'est quand ? Quand est-ce que ça se passe ? Parce que ça pourrait être totalement intemporel, cette histoire.
Ça pourrait être intemporel. Bon, je donne quelques dates, parce qu'il y a les naturalisations des Espagnols, parce qu'il y a la guerre d'Algérie. Mais après, surtout dans la dernière partie, ça devient complètement intemporel. Ouais.
Et cette famille que vous créez totalement, c'est une question que je voulais vous poser. Bon, on sait que l'auteur est omniscient et que vous créez les personnages, mais c'est un grand plaisir comme ça de créer complètement cette famille, de se les inventer même physiquement.
Oui, tout à fait, parce que comme le lecteur, je pense que l'auteur doit rentrer dès la première page dans le décor. Et qu'on vit un an avec ces personnages, parce qu'il faut un an quand même pour écrire au moins un livre. Et donc, il faut vraiment les assimiler, les incorporer. Et les réactions sont souvent mes propres réactions ou des réactions de personnes qui m'entourent. Après, les situations sont complètement différentes. Mais oui, c'est important.
Et vous avez du mal à les quitter au bout d'un an ?
Ah oui. Alors, la première fois que j'ai écrit un roman, quand j'ai mis le mot fin, ça a été épouvantable. Robert, il commençait à en avoir un petit peu marre parce que je faisais la tête, ça n'allait pas. Et donc, j'ai trouvé une combine maintenant. J'ai toujours 3 ou 4 bouquins débuté en attente d'être repris. Donc, je me dis que quand j'aurai terminé l'un, je saute sur l'autre, comme ça, je suis tranquille, j'embête personne et je m'embête pas moi non plus la première.
Et j'ai pas tout lu, mais il y en a que vous avez retrouvé. C'est une discussion que j'ai eue avec Alain Delage, qui est un ami commun. Et il y a pas longtemps, il avait écrit Les Bannis des Hautes Terres. Et là, je crois que c'est Le Vent de la Bise, comme ça, son dernier titre. Il a retrouvé un héros qu'il avait abandonné il y a 3-4 livres. Il me dit, j'ai eu un plaisir dingue à le retrouver. Oui. Vous avez retrouvé des héros ou c'est quelque chose qui pourrait arriver?
Ah non, mais j'en ai retrouvé un. Celui qui sort en janvier, effectivement.
Il est déjà dans un livre.
Oui, j'ai de toute façon... Ah non, vous voulez parler que du héros?
Oui, enfin de trouver un héros, oui.
Si, il y en a un, effectivement. Déjà, je ne pensais pas du tout en faire une suite, mais c'est La couleur oubliée de l'arc-en-ciel, qui est sur le racisme à la Nouvelle-Orléans. Nous sommes au début du XXe siècle, dans le milieu du jazz, et un jeune frère et sa sœur métisse, dont les parents tiennent un cabaret, enfin bref, je ne vous raconte pas l'histoire, mais quand j'ai eu terminé le livre, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à le quitter, même en me replongeant dans un autre texte que j'avais déjà mis sur papier, du moins en partie, et là l'éditeur m'a dit... Bon, il faut faire une suite, parce que tous les gens m'ont demandé une suite, et là, j'ai fait une suite. Mais ça a été un bonheur que de retrouver ces personnages. C'est vrai que ça a vraiment...
J'imagine. Ouais. Le roman s'ouvre déjà par le héros, enfin, un des deux héros, donc, qui est en Tasmanie au début, et puis après, vous refaites une replongée dans leur enfance. Il y a des personnages qui, ce que vous décrivez très bien et qui est très soigné, je trouve, dans votre écriture, c'est toute l'évolution. C'est-à-dire qu'entre le père qui arrive, ses enfants qui arrivent tardivement et qui arrivent après coup sur coup, puisque voilà, au début, ils ont eu du mal.
Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants.
Construire leur vie, l'amitié qui les lie à leur patron, mais qui reste quand même leur patron.
C'est leur patron.
Ouais. Tous ces rapports humains, la joie d'acquérir une première maison, même si elle est très rudimentaire quand même.
Tout à fait.
Et puis aussi cette joie qu'ils ont de que leurs enfants... Voilà, c'est l'ascenseur social, hein, on en
Bien
parle
sûr.
Beaucoup. Voilà. De se priver pour que les enfants
réussissent.
C'est toute une génération, ça, qui a du mal à comprendre les jeunes d'aujourd'hui. Enfin, d'abord, cette génération-là, il n'y en a plus beaucoup, hein, les gens nés en 30. Mais même les enfants, enfin, les gens de l'âge de François, par exemple. François, il naît en combien, les garçons? 37, 38, juste avant-guerre, à peu près.
Juste avant-guerre.
Donc là, ils ont 80 ans aujourd'hui.
Il y en a un qui est né pendant la guerre et l'autre juste avant.
Juste avant, oui. C'est difficile aussi pour toutes ces générations-là de voir aujourd'hui la transformation de la société.
Oui, malheureusement, les sociétés évoluent. Il faut dire que celle-ci évolue peut-être un petit peu trop rapidement et peut-être pas aussi bien que ce que l'on le souhaiterait. Mais... Malheureusement, on ne fait pas nos enfants pour soi, pour leur faire vivre la vie qu'on avait, ou du moins les créneaux que l'on veut. Ceci dit, je pense qu'il y a encore une belle frange de la jeunesse qui étudie, qui se consacre aux études, à la pensée, à la réflexion.
Mais c'est ça qui est formidable aussi dans le livre, c'est que sans que ça soit un livre purement régional, hein, puisqu'il n'est pas du tout régional d'ailleurs, sauf qu'il explique la vie dans une région.
Voilà, oui, à Paragnane. Voilà. La maison de redressement d'Agnane.
Mais c'est que c'est aussi un ouvrage testimonial, c'est-à-dire que c'est aussi, pas un testament, mais quand même une vision d'un monde qui n'existe plus.
Vous savez, ça, c'est mes études d'économiste. Donc, on retrouve des repères avec ces sociétés qui évoluent et qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles avaient leurs valeurs et peut-être que ces valeurs, on y reviendra un jour. Tout est un éternel recommencement.
Et puis, à un moment ou à un autre, ces deux garçons vont partir. Donc, il y en a le premier départ, c'est la guerre d'Algérie.
Oui.
C'est un souvenir que vous en souvenez ?
Alors, petite, moi, pas du tout, mais Robert a fait la guerre d'Algérie. Donc, il m'en a un petit peu parlé. Il m'a parlé surtout de son ressenti, des endroits où il est allé. Et C'est à travers lui que j'ai écrit ça.
Et ça, c'est... Alors, c'est dit formidablement. C'est là où quand même, il y a chez vous une sensibilité, je trouve, justement, de témoignage d'une époque, de témoignage de ce qui s'est passé, parce que François en revient cassé.
Bien sûr.
Plus que cassé. C'était pas, il faisait pas bon de le dire. Hein, quand les marines sont revenus du Vietnam, on n'avait pas le droit non plus de dire leur trauma. Et c'est très bien abordé parce que c'est justement sur ce trauma que la suite du roman va se construire. Or, vous l'abordez d'une façon extrêmement elliptique, presque. Hein, c'est, voilà.
Ça servait à rien de raconter les horreurs qu'ils ont pu vivre. Par contre, les meurtrissures que ces hommes portaient en eux à leur retour, oui, je pense qu'il fallait les évoquer.
Parce que vous l'évoquez aussi quand, à un moment, il est question de prendre la nationalité australienne et que l'Australie est dans le conflit, moi, ce que je ne savais pas d'ailleurs, américain, au Vietnam. Oui. Et il lui dit, ne prends pas la nationalité, tu risques d'être envoyé au Vietnam. Oui. Ça, je ne savais pas. C'est truffé de petites choses comme ça. C'est votre travail ou celui de Robert ?
Ah, c'est un peu les deux, un peu des deux, mais c'est vrai que moi aussi je me régale à aller faire des recherches, à regarder des petits points que j'ignorais. Hein. Je l'ignorais moi aussi.
Ah oui, mais ça m'a vraiment. Et puis donc, première histoire de vol, de bêtises, hein, voilà, de carreaux cassés. Hein, enfin bon, voilà, c'est pas non plus. Voilà.
De crever après.
De crever, oui. Alors celui-là est plus embêtant quand même.
Plus embêtant.
Et puis, Louis est accusé de vol d'un couteau et surtout d'avoir crevé les pneus avec ce fameux couteau. Et donc, il a beau dire qu'il n'est pas coupable, il est mis dans une... Comme il est mineur, il a 15 ans, il va passer 3 ans en maison de redressement,
oui,
qui n'existe plus maintenant, ou pas comme elles existaient en tout cas à ce moment-là.
Non, ça n'existe plus.
Et c'est pareil.
Le monument existe toujours, le bâtiment existe toujours.
À Agnan. Mais là, c'est pareil. Je trouve que c'est très fort chez vous pour lire beaucoup de livres... De témoignages comme ça, vous appesantissez pas. Vous auriez pu faire une mauvaise période, Danyane. Non.
Ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de ce qui va le porter vers un destin différent. Donc, c'est surtout son destin.
Même le directeur de l'Institut est plutôt à son écoute au niveau du boulot, de tout ça. C'est très...
Oui, mais enfin, il y avait quand même des punitions assez rudes, notamment l'histoire de l'enfermement dans une cage. Hein.
Et puis après ce moment, Louis et François va trouver complètement par hasard un jeune homme qui va lui dire « Ben non, ton frère n'était pas coupable. Mmh. » Et la grosse culpabilité.
Et oui, parce qu'il a douté de lui, il l'a même cru coupable à une époque et ben, il s'en veut énormément de ne pas l'avoir justement soutenu, aidé, essayé de lutter contre le père pour leur faire comprendre qu'il n'y était pour rien.
Donc le père ne le soutient pas.
Pas du tout.
La mère, oui.
Et oui.
Par amour maternel instinctif. Et puis là, on va partir donc en Australie d'abord, dans un premier temps, puisqu'il y a échange d'identité. François reste en France, il va continuer ses études, il va mettre une croix aussi sur ses rêves, à lui.
Oui.
Et puis, Louis, devenu François, va s'installer en Australie. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, vous connaissez l'Australie ?
Un petit peu.
Là, il y a pas eu, il y a eu un peu de recherche sur les premiers boulots qu'on pouvait faire, puisque bon, il va travailler, il devient manuel, quoi.
Complètement. Mais à cette époque-là, effectivement, on n'engageait que des manuels. Alors bon, là, ceci dit, c'est vrai que il y a un petit point personnel. Là, j'ai souhaité partir vivre en Australie à une époque, partir par ce système. Donc, on connaissait un petit peu les rouages. Mais là, ce ne sont que ou la tonte de moutons, le ramassage de fruits, ou le travail dans les mines, bien sûr.
Oui, parce qu'il va à l'ambassade et il dit « Donnez-moi n'importe quel boulot, il faut que je parte. »
Voilà.
Donc...
Enfin, c'est même pas l'ambassade. Il faut que l'ambassade vous accepte votre dossier, que sanitairement également, il n'y ait pas de problème. Et c'est en Australie où ils sont envoyés dans un centre où on va leur trouver du travail selon leurs aptitudes.
Et donc, il part, il va trouver du travail. Alors là, plusieurs rencontres, on ne va pas tout...
Oui.
Voilà. Une première femme Anna, bon, je voulais vous poser la question, mais en fait, à la fin, on peut en parler maintenant, du rôle des femmes dans ce roman, des femmes fortes. Donc la première rencontre, c'est avec Anna, qui est une Italienne qui est en survie un peu.
Qui est en survie, qui a eu une enfance très difficile et qui, grâce à un ami de sa mère, avait pu apprendre le français. Lui, il habitait justement dans le Tarn et elle est partie en Australie pour pouvoir échapper à la misère dans laquelle elle avait évolué jusque-là. Entre la mendicité, des fois la prostitution même de sa mère. Et donc là, elle dit, ben, c'est terminé, moi je veux pouvoir avoir de l'argent, je veux pouvoir disposer de ma vie. Elle s'imaginait que l'argent était la liberté et elle va se battre pour ça.
Donc il n'y aura pas couple ? Ils vont pas se mettre ensemble. C'est une histoire d'amitié. Il y aura une histoire sentimentale, mais qui est extrêmement crue d'ailleurs, hein, mais qui est, je pense, très proche d'une certaine réalité de l'époque.
Tout à fait. C'était une extériorisation en quelque sorte.
Et puis après, il y a Émilie. Alors le personnage d'Émilie, qui est un personnage flamboyant, hein, qui est une liane longue, brune, une peau douce, veloutée, hein, vous dites veloutée. Émilie, vous l'avez inventée, vous l'avez tirée d'où cette Émilie ?
Alors, je me suis penchée sur le problème des aborigènes, parce qu'il y avait un racisme épouvantable entre les Blancs et ces aborigènes qu'on qualifiait
de primates,
absolument, et half caste, de moitié de caste, vous voyez. Et évidemment, il y a eu beaucoup de luttes entre eux, parce que les premiers Blancs qui sont arrivés, qui étaient des chasseurs de phoques, ont essayé de les exterminer. C'est pour ça qu'ils appelaient les Blancs les hommes phoques, d'ailleurs. Et il y a vraiment ce racisme entre eux qui existe. Alors, le racisme, évidemment, est plus dur de la part des Blancs, puisqu'on va interdire aux aborigènes beaucoup de professions. Ils n'auront pas accès à beaucoup de choses. Mais quand même, il y a la haine qui existe entre les aborigènes vis-à-vis des Blancs. Et elle a réussi à décider son père, à la laisser faire des études, mais son père l'avait fiancée avec un aborigène de la tribu. Et donc, ça va être les rencontres de ces deux êtres, puisque lui travaille dans les mines, elle travaille dans le laboratoire pour ces mines-là. Et un jour, suite à une blessure, c'est elle qui va lui venir en aide.
Et ça commence en amitié, avant de se transformer en amour.
Voilà.
Peut-être c'est le moment de lire, justement, page 167, justement cette évolution qui va aller de l'amitié à l'amour. Mm-hmm. Je vous laisse.
Eh bien. Là, dans le cocon de la soirée, il refaisait le monde, c'est-à-dire donc François et Émilie. Leur monde. Cette nuit-là encore, elle découcha. Toutefois, dans l'immédiat, elle ne souhaitait pas emménager chez lui. Elle préférait attendre que leur relation se solidifie avant de s'engager définitivement. Ensuite, il y avait ce fiancé avec lequel elle se devait de rompre, et sa famille, surtout son père, le chef, celui qu'on appelait respectueusement le maître des secrets dont elle redoutait la rédaction. François, s'il comprenait ses réticences, avait malgré tout du mal à les admettre. Pour lui, il était évident qu'elle était la femme de sa vie. Il souhaitait lui offrir le meilleur de lui-même, se consacrer à elle, à son bonheur. Il faisait sienne une maxime de Bouddha qu'il appréciait tout particulièrement. « Quand vous aimez une fleur, cueillez-la. Mais quand on aime une fleur, on l'arrose tous les jours. Celui qui comprend cela comprend la vie, et il venait de comprendre. »
Voilà, et ça va être une grande histoire d'amour, une grande histoire de passion, et qui va un jour dérailler. Et moi, j'adore les déraillements de la vie. Hein, voilà, c'est tout d'un coup, ça va partir. Et il y a un moment où on peut plus, Martine, en dire plus.
Parce que là, on va.
Voilà, parce que la dernière
partie,
exactement, la dernière partie, c'est vraiment des révélations, des interrogations, des coups de théâtre. On s'arrête là pour parler de ça.
D'accord.
Et puis quand même, ces personnages qui sont quand même toujours porteurs d'espoir, c'est jamais perdu, je trouve, pour vos héros.
Mais la vie n'est jamais perdue. Tant qu'il y a de la vie, on dit il y a de l'espoir. Et donc,
voilà. C'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres romans de vous, comme ça, truc toujours de...
Il y a toujours de l'espoir. Je pense pas avoir... Non, même dans Les Trois Femmes dans la Tourmente, il y a l'espoir. Ouais.
On va marquer notre deuxième pause musicale avec un air d'un aborigène, Archie Roach. Alors, Took the Chill Chicken Runaways.
Oui, ils ont pris nos enfants. En fait, si vous voulez, ce chanteur, qui était aussi un auteur-compositeur, guitariste, il va traiter dans ses chansons la vie réelle du temps des rêves des aborigènes, qui est le monde de création des aborigènes, et toutes les difficultés, ce que les hommes blancs, pas systématiquement les hommes phoques, mais aussi les Anglais, ont pu leur faire.
On écoute.
This story's right, this story's true. I would not tell lies to you, like the promises they did not keep. And how they fenced us in like sheep, said to us, come take our heed. Set us up on mission lane, taught us to read, to write and pray. Then they took the children away, took the children away, the children away. Snatched from their mother's breast, said this is for the best, took them away. Well, the man looked holy stained, said you've got to understand. We'll give to them what you can't give. Teach them how to really live. Teach them how to live their sin. Humiliated them instead. Taught them that and taught them this. And others taught them prejudice. And took the children away. The children away. Breaking their mother's heart, caring us all about, took them away. One dark day on Framlingham, came and didn't give a damn. My mother cried, go get their dad. He came running, frightened. Mother's tears were falling down. Dad shaped up and stood his ground. He said, you touch my kids and you fight me. Then they took us from the family, took us away. They took us away.
Et toujours en compagnie de Martine Pilate dans ce numéro d'Aéropage consacré aux Les gens des brumes, avec ce très beau chant. On n'a pas le temps, Martine, de lire la traduction, mais peut-être le refrain, vous pouvez nous le lire. Ils nous ont volé nos enfants.
Ils ont pris nos enfants, ils les ont emportés, arrachés au sein de leur mère, en disant que c'était pour leur bien, ils les ont pris.
Voilà, comme quoi les histoires se réinventent toujours. On n'a pas de mémoire. Heureusement qu'il y a des écrivains comme vous qui nous rappellent les choses. Est-ce que c'est ça aussi le travail de mémoire des auteurs,
hein? Je pense, et le roman est un très bon vecteur pour cela.
On a parlé de l'Australie, donc vous nous faites faire un très beau voyage en Australie, mais surtout en Tasmanie,
oui.
Qui est surtout connu par le tigre, non, comment ça, le truc de Tasmanie ?
Non, le diable de Tasmanie.
Le diable de Tasmanie, voilà. C'est un pays qui fait rêver, et donc Vous l'avez vu.
Oui.
C'est vraiment un pays de rêve ?
C'est un très très beau pays, c'est un condensé de l'Australie, si j'ose dire, avec des reliefs tout à fait différents selon les points cardinaux où l'on se rend. Et c'est un peuple très attachant, primaire, c'est sûr, mais avec une végétation, une faune et une flore extraordinaires.
Vous étiez resté longtemps ?
Non, un mois à peu
un
près.
Mois, ah ben, un mois quand même, on a le temps d'un peu vivre,
un petit peu,
de
s'en imprégner. Oui.
Et il y a aussi une chose, parce qu'on parle de ces deux garçons, mais il y a aussi les personnages féminins. On a parlé d'Anna, on a parlé évidemment d'Émilie. Le personnage de la mère aussi est très travaillé, hein, de cette mère qui, par sa tendresse passive, est là quand même forte, que cette tendresse-là, elle est forte.
Oui, tout à fait.
Et puis Marianne, dernière amoureuse.
Marianne, qui est une femme qui a connu pas mal de déboires dans sa vie, mais qui elle aussi est partie en Australie pour réussir avec un mari dont elle finit par divorcer bien des années plus tard et qui décide de réaliser son rêve, donc de se consacrer aux antiquités. Elle a une passion pour les antiquités. Ce n'est évidemment pas très facile. Elle est plus âgée que François, enfin que Louis-François, mais elle essaye de se débrouiller, elle croit en ce qu'elle fait, et puis elle croit en l'amitié. Et elle est tout à fait heureuse de pouvoir rencontrer des gens qui parlent français comme elle, parce que quand on est à l'autre bout du monde, avec des saisons qui s'inversent, des climats complètement différents, des gens différents, eh bien, pouvoir parler la langue, la même langue que quelqu'un d'autre, originaire du même pays que soi, c'est quand même très très précieux.
Vous aimez faire des portraits de femmes aussi, ou d'hommes, c'est pareil?
Oui, ou oui, non, tous les deux. Je me suis attachée à écrire aussi bien des romans où les personnages principaux sont des hommes comme des femmes.
Parce que ces deux hommes, ils se construisent aussi avec les femmes, parce
bien
que
bon,
le vrai François va aussi se construire par rapport à une femme, on va le savoir.
Eh oui
voilà. Avant de se quitter, je voudrais qu'on aborde aussi une partie de votre activité. Donc, on en a parlé un petit peu en début d'émission, mais c'est ce plaisir que vous avez à aller sur les salons, à aller à la rencontre des gens. C'est quelque chose que vous voulez continuer à faire, Martine?
Oui, complètement. Tant que la santé nous le permettra, on aime ce contact avec les gens. On aime pouvoir parler, échanger, ce que je vous disais tout à l'heure, un regard, un sourire, c'est excessivement précieux. Gardez ce contact.
Retrouvez aussi vos amis auteurs, parce que je vous vois sur les photos de salon, des fois à Brive, ça rigole, ça discute.
Mais c'est des bons moments, tous les salons. Hein. Quand on va à Nancy, c'est magnifique. Le soir, après, on va manger sur la place Stanislas.
Le livre sur la place, hein, qui est un très beau salon.
Ah oui, c'est un très très beau salon. J'ai la chance d'y être depuis plus d'une dizaine d'années, c'est non, Besançon.
Donc le seul
aussi
qui n'ouvre pas ses portes encore à
Montpellier
et Paris.
Alors Paris, c'est autre chose. Paris, c'est vraiment salon, je dirais, d'éditeurs et d'éditeurs parisiens. Ceci dit, Paris, moi, je suis invitée au Salon du Livre Historique à Levallois-Perret. Donc, c'est différent. Mais là, vraiment, pour les sorties de livres, c'est vraiment le livre parisien, comme on aime le lire, à Paris. Et comme m'a dit mon éditeur parisien un jour, les éditions de La Différence, Martine, il faut changer un petit peu de style. Des phrases plus courtes, vous supprimez les adverbes, moins descriptifs. Bon. Alors, je me suis essayée dans 50 premières pages, et puis après, je dis, vous les prenez comme ça, vous ne les prenez pas. Et puis, finalement, il les a pris comme ça.
On parle de 50 prochaines pages, premières pages. Il ne nous reste même pas 2 minutes. Vous nous faites un petit teasing sur ce sur quoi vous écrivez en ce moment?
Alors, j'en ai un autre qui sort en janvier. Alors, j'aime bien faire des choses complètement différentes, hein, parce que d'abord, autrement, je trouve que ce serait ennuyeux. Celui qui sort en janvier est plutôt érotique. Deux cousines, deux filles d'une bonne famille qui vont déraper. Et l'une va se retrouver sous l'emprise d'un pervers narcissique. Donc, ce sera leur cheminement pour arriver à échapper à leur destin. Par contre, vont-elles y parvenir? C'est autre chose. Par contre, celui qui me tient à cœur, c'est celui sur lequel je suis en train de travailler, qui est sur un point d'histoire complètement méconnu et qui implique également la sœur aînée du général de Gaulle, enfin qui l'implique de bonne manière, hein, attention, et qui me permet justement d'être en lien avec un descendant de la famille de Gaulle, pour être bien sûr de ce que j'écris. Et nous sommes même allés avec Robert au Tyrol cet été, pour que je sois bien précise dans les descriptions, bien voir là où se passe l'action.
Ben, je vois que vous continuez dans ces multiples genres littéraires, c'est superbe. Merci beaucoup,
merci
Martine Pilat, d'être venue depuis le Var, je crois, pour nous voir.
Ah, c'est un plaisir que de revenir à Montpellier et puis de vous retrouver.
Et à très bientôt. Au revoir, Martine Pilat.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.